Des livres RMC, Fred Hermel.
Comme tous les ans depuis ma naissance, j'ai passé Noël sur mes terres d'Artois. Ma mère, grande lectrice et bien entendu auditrice de ce podcast, m'a fait à cette occasion une remarque intéressante. « Tu devrais aussi inviter des auteurs qui racontent des choses plus gaies », m'a-t-elle recommandé entre deux morceaux de bûche. J'ai bien compris ce qu'elle voulait dire par là, mais je lui ai répondu que les gens heureux n'avaient pas forcément besoin d'écrire des livres. Bonjour, je vous souhaite une très belle année 2025 et je suis ravi de vous accueillir dans le 10e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Famille, quand tu nous tiens. L'un a écrit sur la mort de son frère à l'âge de 4 ans et demi, l'autre sur le test de paternité demandé par son père quand elle avait 28 ans. La famille et les souvenirs, tel est le thème de cette première émission de l'année avec Francis Grimbert, auteur du roman Les Deux Tilleuls chez Arléa, et Léa Chauvel-Lévy, auteur du roman Une demande folle chez Jean-Claude Lattès. Bonjour Léa Chauvel-Lévy.
Bonjour.
Bonjour Francis Grimbert.
Bonjour.
Alors parce que c'est l'histoire la plus ancienne et la sortie la plus récente, le 2 janvier exactement, je me tourne d'abord vers vous Francis. Il vous a fallu plus d'un demi-siècle pour écrire ce livre sur la mort de votre petit frère. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic ?
Le déclic pour déterminer si le livre était terminé ?
Ou l'envie de l'écrire en fait.
Oui, bah, l'envie a peut-être été toujours là d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, ce thème-là, ce matériau, oui, je ne pouvais que l'écrire un jour.
Mais vous avez dû commencer par un premier livre avant.
Oui, donc celui-là, pendant de longues années, j'ai tâtonné, j'ai commencé, et je n'étais jamais satisfait. Voilà. Donc on peut avoir un matériau, il faut trouver une forme, c'est quand même important. J'irai même une langue qui correspond au livre, et un jour tout de même, je l'ai trouvé. Voilà, je juge que tel qu'il est, c'est ce que je voulais. Mais c'est vrai que ça prend du temps parfois, ouais.
Mais justement, il y a eu un premier livre avant pour vous essayer au roman, à la littérature, avant d'écrire ce livre qui est essentiel dans votre vie.
Ça ne marche pas forcément comme ça. J'écris donc sur différents thèmes et celui-là s'inscrit dans un schéma plus large. C'est pas le livre.
En tout cas, c'est le dernier.
Oui, c'est le dernier. Mais je veux dire, les autres ont une existence aussi forte que celui-là, même si celui-là est très particulier, parce que forcément, il parle de quelque chose de très, très intime, donc d'une enfance.
Racontons l'histoire, c'est un drame absolu, banal, accident de la route.
Oui, voilà.
Dans le nord de la France, voilà, dans la plaine de Flandre.
Un accident de la route. Donc, l'effet précis, c'est qu'avec mon frère, j'ai 7 ans, lui, 4 ans et demi, on traverse la route ensemble. Bon, une voiture passe, voilà. Donc, évidemment, les choses, à la seconde, bah, tout change. Bon, il va décéder deux jours plus tard, donc dans le coma. Donc, voilà, c'est une réalité évidemment très, très forte. J'ai voulu l'inscrire fortement dans un cadre très précis, géographique. Le livre est aussi une description de la vie à la ferme, de grandir au sein de la nature, à la fois avec l'absence du frère et en même temps la présence de la nature. Les deux sont en permanence, je pense, juxtaposés.
Oui, c'est la Flandre française,
oui.
Qui est une région que je connais bien entendu, qui est très belle. Et vous, justement, on a le sentiment que la nature est peut-être même plus importante, en tout cas dans la description que vous faites, peut-être même plus importante que les personnages. C'est-à-dire qu'on a plus de détails physiques sur la nature,
oui,
que sur les personnages.
Oui, effectivement. Oui, voilà. Comme j'écris à hauteur d'enfant, l'enfant, il vit vraiment dans la nature avec un contact direct. C'est un souvenir merveilleux. Grandir dans une ferme est quelque chose de vraiment très fort. Même le rapport à l'animal, oui. Parce qu'on est en permanence avec les bêtes d'élevage ou les animaux familiers. Donc voilà, c'est quelque chose qui me manque maintenant, parce que je ne suis plus dans le monde agricole, mais cette proximité-là, elle était importante.
Et puis elle était sûrement très importante pour me permettre de survivre à cette histoire.
Oui, effectivement, les questions ne se les posent pas, mais c'est une présence. Donc évidemment, je ne dis pas que la nature est une consolatrice ou ce genre de choses, je n'analyse pas, je juxtapose. Il y a un événement, dramatique évidemment, et il y a la nature. Les deux vivent ensemble, et moi aussi.
Vous écrivez, Je suis également le frère de François, François Francis. Comment vivre avec la moitié du prénom d'un mort ?
Alors, comment vivre avec, avec un mort
en plus, les prénoms, parce que F,
oui,
R...
Oui, oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a des couples de prénoms, c'est assez...
F-R-A-N.
Oui, effectivement, Francis et François.
Vous n'y avez pas pensé à ça ?
Si, bien sûr. Il y a proximité,
oui,
y a proximité totale dans les deux prénoms. Je pense, mais je suis sûr que je pense que ma mère voulait appeler le premier, donc moi, François. Puis on lui a dit, en 62, c'était... Francis était plus moderne. Ça a bien changé. Voilà.
Vous le racontez ça dans le livre.
Oui, je le raconte. Donc voilà, oui, ça crée une proximité de nom, effectivement.
Alors moi, je suis un grand frère. Hein. Je sais le rôle du grand frère auprès de ma petite sœur de 3 ans, ma cadette. Vous aviez 7 ans et votre frère 3 ans de moins lors de l'accident. N'y avait-il pas au fond de vous une sorte de culpabilité de ne pas avoir su protéger votre petit frère ? Parce que vous écrivez d'ailleurs... J'étais fier d'être le grand frère qui rassure.
Alors, la culpabilité est obligée. N'importe quel accident, le survivant, comme vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, ne peut que se sentir coupable. Maintenant, ce n'est pas un thème que j'ai voulu développer du tout.
Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est cette phrase-là quelque chose...
Oui, mais j'explique tout de même que la culpabilité, c'est intéressant. On peut développer. D'un autre côté, c'est obligé, c'est comme ça. Il n'y a peut-être pas à en faire... Et toujours trouver un coupable aussi. Dans un accident, l'époque a changé. Actuellement, un accident, on cherche automatiquement une responsabilité juridique ou autre. En 69, ce n'était pas tout à fait le...
C'était le destin, la fatalité, c'est ça
ou... Par exemple, le mot destin était très utilisé. La définition même d'un accident. Par définition, c'est le destin, oui.
Alors c'est votre marraine qui vous annonce la mort de votre petit frère. Elle dit « François ne respire plus ». Et vous écrivez « Mais Claire a raté son annonce ». En fait, le petit garçon que vous étiez ne pouvait pas y croire. Vous ne comprenez pas en fait, vous ne voulez pas comprendre. Pour vous, ne plus respirer, ok, il ne respire plus maintenant, vous l'écrivez, mais il va de nouveau respirer après.
Oui, évidemment qu'on n'y croit pas. Oui, si un enfant meurt, on ne peut pas y croire. C'est d'ailleurs une des spécificités, c'est pas un joli mot, mais d'une mort d'enfant, c'est que on l'atteste et on la nie en même temps. C'est pas tout à fait la même chose que pour un adulte. Je parle pas d'intensité de la douleur, elle est pareille. Mais on a ce grand vide en disant ça a eu lieu, mais non, c'est pas vrai.
Parce que ce n'est pas possible, parce que c'est trop cruel.
Parce que ce n'est pas possible.
C'est trop injuste, en fait.
Oui.
On peut pas.
Non, on se dit ce n'est pas possible, mais on le dit. Vraiment, voilà.
Oui, on utilise ces mots-là, ce n'est pas possible.
Voilà, c'est ça.
Alors, vous avez 7 ans et on vous propose d'aller à la morgue parce qu'on vous explique que c'est la dernière occasion de voir votre frère. Est-ce que vous regrettez finalement ce moment ? On a l'impression dans les lignes que vous écrivez que on aurait peut-être pu vous éviter ça.
Regretter, non. C'est comme ça. J'explique simplement comment que ça se passe. Et je comprends les
c'est
adultes.
À Lille. Hein, c'est...
Oui, oui. Les adultes sont très embêtés vis-à-vis d'un jeune frère. Que faut-il faire ? Voir ou pas ? C'est là, je pense que c'est quelque chose qui se pose, une question qui se pose très, très souvent, malheureusement. Donc, mais je n'ai pas de sensation de regret par rapport à ça.
Vous écrivez. En haut de la tombe se dresse une croix où est inscrit François Grimbert. C'est incroyable. C'est la chose la plus fantastique au monde. Bien plus que toutes les prouesses de Zorro et de Rétintin réunies. C'est la littérature à son point ultime. On lit un nom et un prénom. Ça veut dire la mort. Francis, avez-vous conscience que seul un grand écrivain peut écrire ça ?
Non, je n'en ai pas conscience.
Là, je vous le dis. C'est d'une beauté. Moi, ça m'a retourné.
Oui, quand vous lisez, c'est pas
trop mal. J'ai une belle voix en plus, donc ça met un
ça va, c'est pas trop mal, oui. Donc, je tenais à cette idée-là, un nom, un prénom, deux dates.
Il n'y a pas besoin d'expliquer, en fait.
C'est de la littérature, oui. Oui, bon, voilà.
C'est de la littérature sans fioriture, là, parce qu'on est dans la simplicité du mot et tout est dit.
Oui, là, on est... On est chez du Modiano concentré, là. c'est vrai qu'on ne peut pas plus...
Non.
Voilà, non. Pour donner une pointe d'humour, parce que bon, y a les deux. Il y a l'événement tragique. Puis bon.
Ah, mais il y a aussi...
Oui,
dans,
voilà.
Mais bien sûr, dans votre livre, bien entendu, il y a des moments d'humour, parce que c'est aussi l'histoire d'un petit garçon. Et un petit garçon, quand on a 7 ans, on a besoin d'être heureux aussi. On a besoin de sourire à nouveau, on a besoin de rire à nouveau. Donc, alors, je ne pensais pas lire un jour un... quelque chose aussi beau sur la mort d'un frère que le récit Olivier de cet écrivain que j'admire profondément, Jérôme Garcin. Et maintenant, il y a les deux tilleuls. Avez-vous lu Olivier ?
J'ai lu Olivier il y a une dizaine d'années. C'est un livre évidemment important pour moi. Un livre magnifique. Il ne m'a pas influencé directement. J'avais déjà commencé. Et puis de toute façon, on n'a pas le même style.
Non, voilà. Non.
Mais c'est un livre majeur sur... il est... Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai préparé une citation d'Olivier.
Je peux la lire.
Parce que lui explique l'adulte par rapport à l'enfant. Moi, je n'ai pas voulu. J'ai préféré le récit. On reste enfant. Donc lui, c'est un peu différent. Mais tout ce qu'il a dit, je le prenais à mon compte. Même si, voilà. Donc de ce fait-là, je vais... Voilà. J'avais l'impression d'être incomplet, mutilé, dépossédé d'une partie secrète de moi-même, ou plutôt suivi, même les jours sans soleil, par une ombre fine et insistante. Je ne connaissais pas la légèreté, je portais un absent en moi, je ne connaissais pas l'insouciance, tu souffrais en moi, je ne connaissais pas l'innocence, tu me l'avais volée, j'étais double.
C'est très beau.
Oui, c'est beau.
J'ai écrit à Jérôme Garcin pour lui dire, vous devez absolument lire les deux tilleuls. Voilà, Jérôme Garcin qui sera bientôt notre invité dans ce podcast des livres RMC. Carla Fernandez, qu'on retrouvera tout à l'heure pour sa recommandation de lecture, me faisait remarquer que vous n'employez pas les mots papa et maman, mais Gérard et Claire pour vos parents.
Oui.
Ce choix.
Je ne les ai jamais beaucoup utilisés. Non. Je disais pas, ma. Puis après, non, il n'y a pas de... Voilà, c'est des histoires familiales. Chaque famille a sa spécificité par rapport à l'appellation.
Donc dans le livre, vous avez respecté les mots de l'enfant que vous étiez.
Oui, voilà. Pas en l'occurrence, non. Là, si je parle clair ou...
Vos parents sont fermiers et la Complaine de Flandre, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est vraiment tient un rôle essentiel dans ce livre. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de cela, quoi, parce que vous avez une capacité à décrire les choses. D'ailleurs, qu'est-ce que sont les deux tilleuls ? Parce que c'est le titre, mais ils sont très importants dans ce livre.
Ces deux tilleuls qui étaient en haut de la cour de la ferme, qui avaient à l'époque 70 ans, donc ils étaient vraiment immenses. Donc voilà, s'il y a une ferme où il y a deux tilleuls, ils prennent beaucoup de place et ils sont là. Donc voilà. Et la géographie, disons que les descriptions, oui, je crois beaucoup qu'on s'inscrit dans une géographie. Qu'on crée soi-même ou pas, mais voilà, on est constitué de des prés, des champs, des rues si on est citadin, de tel garage.
De savoir d'où l'on vient.
Oui, il y a de ça, oui, effectivement. Être géographe précisément, pour moi, c'est important. Oui.
L'enfant que vous étiez attendait toujours son petit frère. Il y a un épisode dans votre livre où une petite voisine veut emporter l'abécédaire de François. Racontez-nous, c'est déchirant.
Alors oui, c'est peut-être la scène qui a été la plus difficile,
écrire,
parce que je la vis là, effectivement. On lui dit, bah, prends l'abécédaire, de toute façon, il ne servira plus à rien. Moi, je sais lire, j'ai 7 ans. Et puis, ce qui n'est pas dit, François n'est plus là. Donc, voilà. Et là, oui, effectivement, dans la tête de l'enfant, il y a quelque chose qui s'effondre. Non, il faut que l'abécédaire reste parce qu'on ne sait jamais.
Parce qu'il pourrait revenir et vous dites
on ne sait jamais.
Il ne sait pas encore lire. Donc, quand il va revenir, il va apprendre à lire. Donc, il aura besoin de cet abécédaire.
Alors, comme j'ai 7 ans, c'est un âge assez particulier. On dit l'âge de raison. Donc, l'âge de raison correspond, je pense, au fait d'avoir conscience de notre mortalité. En gros, c'est ça. Mais si on a 7 ans, on est encore un peu dans l'époque d'avant. Donc, on est à cet âge charnière où on utilise de la pensée magique, ce genre de choses. Voilà. Donc, oui, effectivement, le retour, oui, on y croit. On y croit vraiment. Et quand on va à la messe et que... Jésus parle de Lazare, ce genre de choses, le mot ressuscité dans la tête d'un enfant de 7 ans, hein, je ne parle pas actuellement.
Oui. Mais qui va à la messe, qui entend ces histoires, parce que l'Évangile, c'est une histoire qu'on raconte chaque dimanche
à la
messe.
Il a une vraie résonance, une réalité forte, oui, revenir.
Vous vous demandez, Francis Grimbert, ce qu'il serait devenu, François, s'il avait vécu. J'oserais dire qu'il est devenu le héros d'un magnifique roman, Mission accomplie.
Oui, alors... Mais je ne sais pas quoi vous répondre. J'aurais préféré
ne pas l'écrire. Bien entendu.
Alors ça, c'est assez compliqué. Oui, effectivement, même on peut aller jusqu'à une certaine culpabilité. Je ne vais pas faire de l'auto-analyse aujourd'hui.
Mais François existe parce qu'il y a votre magnifique roman.
Voilà. Oui, voilà. Alors je voulais simplement une vie. Je pense que c'est Françoise Dolto. Elle disait un enfant.
T'es un grand psychanalyste.
Ouais, un enfant qui meurt jeune a tout de même eu une vie complète. J'aime beaucoup cette phrase. Parce que oui, une vie de 4 ans et demi, elle existe. Et pourquoi pas la dire ? On ne peut la dire que par bribes, par des pastels, des souvenirs. Mais effectivement...
Mais cette vie-là a existé.
Oui, elle a existé. Donc je témoigne d'une vie qui a existé, tout simplement.
Je vous paraphrase, Francis, pour vous poser cette question. Grimpez-vous encore jusqu'aux plus hautes branches des tilleuls pour faire revenir votre frère ?
Non, j'avoue que non, non, non. Non, alors il faut dire, le temps a passé, 50 ans, voilà, donc on ne peut pas mentir, il n'y a pas une douleur qui est là, quotidienne ou autre. À certains moments, oui, on est ressaisi par la chose, et pas quotidiennement tout de même. Grimper aux arbres, ça fait quelque temps que je n'ai pas grimpé un arbre. Vous me donnez une bonne idée.
Faites attention quand même.
Ouais, je vais attendre le printemps. voilà.
Passons à un petit peu de lecture maintenant. Comme à chaque épisode, j'ai choisi pour l'invité un extrait de son roman. Pouvez-vous nous lire, cher Francis Grimbert, s'il vous plaît, la page 84.
La visite au cimetière est un rituel. On aligne des pas sur les gravillons. On s'assure que la tombe est toujours là, de 1969 à 77, chaque dimanche ou presque. Dans le vase de la tombe, nous plaçons 2-3 glaïeuls que Claire a coupés dans le jardin. Nous faisons le signe de croix où nous prions, où nous lui parlons, chacun fait comme il veut. J'ai les glaïeuls en horreur. Je voudrais qu'ils disparaissent de la surface de la terre. C'est une fleur affreuse qui attire le vent froid et me dit que mon frère est mort.
Vous avez les glaïeuls en horreur. Alors, quelles sont les fleurs qui vous rendent heureux aujourd'hui, Francis ? Celles qui parlent de la vie ?
Alors, les fleurs, j'aime beaucoup les pensées. Tu vois, c'est une fleur magnifique. En plus, bon, si on fait un peu le terme, oui. Évoque autre chose aussi. Voilà, les pensées. Les dahlias, parce que juste après, dans l'extrait,
vous parlez des dahlias.
Oui, heureusement qu'en été, finalement, c'est plus le glaïeul, c'est le dahlia. Je dis, le glaïeul est viré, vive le dahlia. Voilà.
Merci beaucoup Francis, magnifique roman, on y reviendra un peu tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Léa Chauvel-Lévy, et cette demande folle, c'est le titre de votre magnifique roman, cette demande folle faite par votre père quand vous aviez 28 ans. Quelle est-elle ? Racontez-nous, c'est quoi cette... Parce que c'est vrai qu'on est tout de suite attiré quand on regarde le titre, qu'est-ce que ça peut bien être que cette demande folle ?
Alors en général, une demande folle, les gens pensent vraiment, enfin quand je suis en salon... que c'est une demande en mariage. Mais alors absolument pas, c'est mon père, alors c'est pas une autofiction, c'est quand même un roman, mais il se trouve que comme je l'ai vécu, ce test de paternité, et donc à 28 ans, à la suite d'une violente dispute, il me dit « je ne suis pas sûre d'être ton père, faisons un test de paternité ». Il a fallu qu'on fasse ce test de paternité en Suisse, parce qu'en France c'est illégal.
On y reviendra tout à l'heure, parce que vous expliquez bien cela, hein, et la raison pourquoi... Il est interdit en France, mais on y reviendra tout à l'heure.
Absolument, et donc on est dans cette cuisine froide et je raconte que le sol se dérobe, c'est-à-dire que toutes mes fondations sont parties. Au moment où on vous dit, finalement, tu ne connais pas, enfin, l'origine que tu as n'est pas certaine, voilà, ça reprend l'adage qui consiste à dire que la mère est toujours certaine et le père toujours incertain. Et donc, moi, mes fondations se sont écroulées et il a fallu que la science réponde à cette demande folle, cette question folle. Et il faut lire le livre pour savoir si mon père est bien mon père.
On ne va pas le dire. Mais... On y reviendra tout à l'heure, mais c'est pas la
suspense.
Question la plus importante, finalement.
Non.
Pourquoi votre père ressentait-il ce besoin d'avoir cette réponse à une question qui semblait le tarauder depuis un moment.
Bah écoutez, c'est ce qui a été le plus douloureux pour moi, c'est-à-dire qu'il avait un doute dans la mesure où ma mère a eu une histoire avant de tomber enceinte de moi, et donc il m'exposait par là, et c'est pour ça que j'ai parlé d'une demande folle, il y a quand même la folie qui pointe. Il m'exposait par là à l'infidélité de ma mère et à leur sexualité. Et c'est en psychanalyse qu'on appelle la scène originelle. Et là, en l'occurrence, c'est la scène préconceptionnelle. Et donc, ça ne me regarde pas. Et voilà, j'ai essayé de faire cette espèce de... J'ai essayé de comprendre, de décortiquer ce qui a pu se passer dans la tête de mon père, mais j'avais quand même besoin, moi, de me remettre quand même au centre de ma peine, de ma souffrance. Et au moment où on me dit ça, au moment où on me dit que je ne suis peut-être pas la fille de mon père, je tombe. Je tombe en dépression et puis, ouais. Et puis physiquement, je me sens dépossédée de tout moyen.
Et de votre histoire.
Et de mon histoire que je n'arrive même pas à la revisiter. C'est-à-dire que je n'ai plus d'origine. Je n'ai plus de point de repère. Pour moi, un père, c'est aussi un ciel, c'est aussi celui qui nous protège.
Et puis c'est l'Oedipe, hein, le papa, la fille, voilà, c'est important ouais. Quand même là aussi.
Oui, c'est ça. En tout cas, un paradigme tombait. Et la relation qu'on avait eue, qui pour moi était si forte, si simple, elle se complexifiait. Ça a été compliqué, ça.
Comme Francis Grimbert, vous avez dû attendre de nombreuses années pour écrire cette histoire. Là aussi, il a fallu digérer tout cela.
Oui, décanté. En fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai eu un enfant. Et en devenant mère, j'ai été plongée dans des réflexions abyssales. Et j'ai pris la mesure de la violence de la demande de mon père. Voilà, moi, en tombant enceinte, je me suis dit, mais il a été fou. Il a été complètement... c'est de l'irraison. D'exposer sa fille comme ça à une question aussi folle. Et en enfantant, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'écrive ce roman, il faut que j'en tire quelque chose. Et donc, il a fallu que je fasse une enquête. Et toute la deuxième partie, c'est vraiment cette enquête pour rencontrer des alliés de raison, je les ai appelés comme ça, et pour comprendre ce que c'est qu'un test de paternité d'un point de vue juridique, d'un point de vue bioéthique et d'un point de vue de la sociologie aussi, et essayer de se poser la question de savoir ce que c'était qu'un père et essayer de comprendre pourquoi cela m'avait fait tant mal.
Oui, parce que vous allez recevoir le résultat, vous révélez si votre père est ou pas votre père dans le livre, on ne va pas le dire ici, bien entendu. Mais vous le révélez quasiment, on dirait entre deux portes. Là, c'est un roman, donc c'est un livre, c'est, on va dire entre deux lignes. C'est comme ça, ça passe presque inaperçu.
Mais car ce n'est pas la question.
Voilà, parce que justement, ce qui compte, c'est pas de savoir si votre père est votre père biologique, parce que c'est votre père, quoi qu'il arrive, c'est lui qui vous a élevé. Mais ce qui compte aussi, et le livre est basé sur l'effet que cette demande folle a sur vous.
Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéressait, donc, quand je vous dis j'ai rencontré ces alliés de raison, c'est que je ne comprenais plus ce que c'était qu'un père et je ne savais plus ce que mon père cherchait. Parce que lui, il parlait toujours de la science. Mais moi, je trouve que... un père, c'est tout autre chose que des gamètes mâles et de la génétique. Et si vous voulez, c'est pour ça que je suis assez... contre la libéralisation des tests ADN. On en fait énormément. Il y en a près de 20 000 qui sont faits de manière illégale en France. Et moi, dans mon cas, la justice m'aurait protégée, puisque en France, un test est absolument illégal, encore aujourd'hui. Seulement en France et en Pologne, hein, que ça reste illégal. Et moi, j'aurais été protégée par la justice, parce qu'un test de paternité en France, c'est toujours une décision d'un juge. C'est toujours la justice qui tranche. Et moi, dans ces cas-là, à la fin de l'enquête, je suis au tribunal judiciaire, je suis avec la vice-présidente, et elle me dit, dans votre cas, il n'y aurait jamais eu de test.
Il n'y aurait jamais eu de test. Parce qu'il n'y avait pas de besoin, en fait. Non. Pas de raison légale, en fait.
Mais parce qu'il m'avait élevé.
Oui.
Parce que si le père élève son enfant, il est le père. Et voilà. Et...
C'est finalement, d'un point de vue moral, la justice, ben justement, elle est très morale. Le vrai père, c'est celui qui élève l'enfant. C'est mais pas qu'une question de...
Bien sûr, ouais. Et elle est, je dirais aussi, religieuse. Enfin, lors de mon enquête, ce qui moi m'a intéressée, c'est que je me suis rendu compte que le sociologue que j'ai rencontré et le prêtre me disaient la même chose. Ils m'ont dit que un père, c'est pas un géniteur. Un père, c'est celui qui est là, par sa présence, qui élève, qui protège, parce qu'il n'enfante pas, parce qu'il ne porte pas l'enfant. Il est comme un père adoptif. Il adopte l'enfant. En tout cas, c'est un choix, c'est une décision. Tu es ma fille ou mon fils parce que je décide de l'être et je serai là toute la vie pour te protéger. La religion dit la même chose. Donc le sociologue dit ça, le prêtre dit ça aussi. Joseph est le père de Jésus. Personne ne dirait que ce n'est pas son père, mais ce n'est pas son géniteur.
Non. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai vécu longtemps en Espagne et l'espagnol est mon autre langue. En espagnol, Joseph, qui se dit José, mais il se dit Pepe, padre putativo, père putatif. C'est-à-dire le surnom du prénom Joseph, c'est Pépé, pour père putatif.
Ah, c'est formidable. Oui, il
on est exactement là-dedans.
Oui, et moi j'irai plus loin. Qu'est-ce qu'on fait des pères adoptifs si on considère que c'est la génétique et que c'est le facteur génétique qui compte, que seuls les géniteurs sont des pères, c'est assez dramatique comme vision des choses. Voilà.
Alors justement, vous parlez du mot enquête, je pense qu'il faut vraiment expliquer que votre livre est passionnant, outre le fait qu'il est très bien écrit, ça. Ça, c'est une évidence que je ne reçois que des auteurs qui écrivent bien. Voilà, c'est quand même une habitude de chez moi. Mais c'est qu'il y a un côté un peu enquête policière, quelque part. Vous avez besoin de comprendre ce qu'est la filiation. Donc, vous allez voir plein de gens. Vous avez dit un curé, vous avez dit un sociologue. Un juge.
Ancienne garde des Sceaux. Oh, ouais. Je vois une avocate, un juge.
Mais vous bousculez les portes. Hein, ouais. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas forcément très.
Ah non. Non, au début, ils disent. Ils disent non.
Je me permets de vous couper parce que. Il y a même dans une soirée un peu mondaine, vous laissez draguer par un mec un peu lourd qui n'a aucun intérêt, sauf qu'il vous dit que sa sœur est juge. Et là, d'un seul coup, il a un intérêt et vous dites, vous vous servez même
cet homme insipide va tout d'un coup m'intéresser. Parce qu'effectivement, il m'ouvre les portes du tribunal judiciaire.
Exactement.
Et donc, je vais voir la juge, je vais voir le sociologue, je vais voir le prêtre. Je vais voir tous ces gens-là, l'ancienne garde des Sceaux, qui, elle, est complètement contre la légalisation des tests ADN.
Elle explique très bien, d'ailleurs, pourquoi.
Pour protéger l'enfant, bien sûr.
C'est très bien.
Et tous ces alliés de raison m'aident à comprendre, comme vous le disiez, la filiation. Et la filiation, c'est quand même un héritage socioculturel. Voilà. C'est autre chose que simplement... du sperme, tout simplement. Non, mais vraiment, c'est une histoire, c'est un roman familial, et c'est la façon dont on est protégé par son père, tout simplement.
Quelle réponse avez-vous trouvée, finalement, en faisant cette enquête, en rencontrant tous ces gens ?
De la science aucune, déjà. Ça n'a rien changé, voilà. Et ensuite, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'un papa.
Alors, c'est quoi la définition ?
Alors, le papa, pour moi, c'est vraiment celui qui n'interroge pas sa fonction. C'est celui qui... Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est très beau. Ouais.
C'est celui qui a la certitude d'être, de tenir la main, de venir chercher l'enfant à l'école et de lui dire, je suis là et je vais te protéger du mal, je vais te protéger de... Voilà, je suis une certitude. Moi, j'ai fait un peu de philosophie. Enfin, beaucoup même. Et en philosophie, on appelle quand même le cogito ergo sum la première certitude. C'est-à-dire qu'on peut tout... Je pense donc je suis, c'est la première des certitudes. Je pense qu'un père, c'est un socle, comme ça, de certitude. Et à partir du moment où il décide d'élever l'enfant, il n'a pas le droit de remettre ça en cause, me semble-t-il.
Je vous propose une petite respiration musicale. Comme pour chaque invité, Léa Chauvel-Lévy, je vous ai demandé de sélectionner une chanson. Quel morceau avez-vous choisi et pourquoi ?
Johnny and Mary de Brian Ferry et Todd Terji. Pourquoi ?
Pourquoi ? Oui, bah oui.
Pourquoi ? Parce que c'est une chanson qui me rend amoureuse et profondément légère. Elle est à la fois mélancolique. C'est un état amoureux pour moi, cette chanson. Et ça me donne envie de voyager, et ça me donne envie de donner la main à un homme que j'aime.
Ah, bah on va écouter un petit peu alors. All the world to confirm that he ain't lonely. Il a besoin du monde entier pour confirmer qu'il n'est pas seul. Tout est dit. Votre père a-t-il lu le roman ?
Absolument, il l'a lu et il l'a aimé.
Ah.
Et il m'a demandé pardon. Voilà, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. C'est la rédemption, me semble-t-il.
J'ai envie de vous lire la page 130. Parce que j'ai lu une statistique absolument folle que vous donnez dans votre livre. 3500 tests de paternité sont réalisés sur décision judiciaire chaque année.
Beaucoup plus maintenant.
Et entre 15 et 20 000 sont commandés illégalement sur Internet. Vous écrivez, ils sont des milliers chaque année à braver la loi et envoyer tétines, cheveux, brosses à dents à des laboratoires illégaux. J'imagine une salle pleine d'objets d'enfants qui jonchent le sol. Une scène d'horreur, car j'y projette la folie des pères. Au fond, c'est une question vieille comme le monde. Les pères n'enfantent pas, alors ils scrutent la vérité jusque dans nos cheveux, notre salive, ils nous poursuivent. C'est magnifiquement écrit, Léa, et ça dit tout.
Mais j'ai l'impression, en tout cas, de tous les hommes qui ont lu mon roman me disaient à quel point ça résonnait en eux et à quel point il faut entendre aussi leurs blessures. Il faut entendre aussi leurs difficultés à ne pas être sûrs parce qu'ils n'ont pas porté l'enfant. Et j'en ai évidemment beaucoup voulu à mon père, mais il m'a demandé pardon et je lui demande aussi pardon, pas d'avoir écrit, mais de ne pas avoir compris. Et je pense que les hommes, on leur demande beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi leur accorder une chose, c'est qu'ils n'ont pas le premier rôle et ça doit être difficile pour eux.
Passons au questionnaire de Fred. Des questions courtes, des réponses courtes, chacun à votre tour. Léa, puis Francis, où écrivez-vous ?
Dans mon bureau.
Dans mon bureau.
Quand écrivez-vous ?
Toute la journée.
La nuit, plutôt.
Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture ?
Non, pas du tout.
Aucune.
Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez ?
Jamais.
Parfois.
Quoi ?
Ah, comme musique de la pop anglo-saxonne, principalement.
Oui, parce que vous êtes traducteur d'anglais.
Oui, mais c'est ce que je préfère. Voilà.
Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant ?
Le bal d'Irène Némirovski.
Alors, enfant, comme ça, bon, le club des cinq, on va dire.
Non, mais je... Enid Beaton,
c'était vraiment bien. Non, le club des cinq va camper, hein, c'est celui-là.
Non,
à part ça, quand j'ai découvert Le Grand Moln, je l'ai découvert plus tard. Par exemple.
C'est mon livre préféré. Hein.
Mais oui, mais bon, de toute façon.
Alain Fournier, voilà. J'avais 12 ans.
Mais en tant vraiment enfant, non, j'ai pas de titre comme ça.
Quel est le livre le plus important de votre vie ?
L'élu de Chaim Potok.
Les fruits du Congo d'Alexandre Vialat.
Êtes-vous un adepte ou une adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Oh là là, oui, malheureusement.
Pourquoi malheureusement ?
Mais parce que je m'y perds un peu et donc je mets un personnage principal dans l'autre roman et j'injecte.
Je comprends.
Ça devient du n'importe quoi.
Alors, copier-coller, j'ai exactement le même problème. Il y a plusieurs livres en même temps. Voilà, bon.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de lecture à leur enfant ?
Oh, mais ça s'appelle « Je m'appelle Tamanoir », c'est à l'école des loisirs. Et c'est incroyable, ça se lit en une heure et demie, mais c'est pour les 8-9 ans. Hein. Je commence ça.
Ça s'appelle l'école ?
Je m'appelle Tamanoir.
Je m'appelle Tamanoir.
Très bien. Et non, rien ne me vient alors comme ça. Non.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier ?
D'écrire.
Oh, on ne l'avait jamais fait celle-là. Pas mal. Un point pour vous, Léa.
Bah, de lire peut-être des romans plus courts.
Le vôtre est court, d'ailleurs.
Oui, ben non, mais
c'est vrai, de lire le mien.
Ouais. Les noms de livres sont courts, c'est pour ça que j'ai ouais, fait cette réponse-là. Sinon, voilà. Voilà. Non, mais tout simplement, oui.
Oui.
Et puis court, c'est bien aussi. Non, mais je veux dire.
Ben oui, le vôtre est étendu la preuve.
Voilà. Voilà, bref.
Passons à la recommandation de la semaine. J'accueille Carla Fernandez, auditrice de RMC et jurée du prix d'électrice du magazine Elle. Bonjour Carla.
Bonjour Fred.
Alors quel roman vous voulez-vous nous conseiller cette semaine ?
Aujourd'hui j'ai choisi de vous conseiller un roman que j'ai dernièrement lu et qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin, paru aux éditions de l'Iconoclaste en août. Et vu que notre sujet du jour est la famille, je trouvais qu'il tomblait en plein dans le mille aussi. Les hommes manquent de courage, c'est l'histoire de Marco. Il a 15 ans, il fume, il fugue et dernièrement, il a demandé à sa mère Jessie l'émancipation. Et après 72 heures sans lui avoir donné de nouvelles à Jessie, il l'appelle en pleine nuit et il lui dit « Maman, viens me chercher à telle adresse avec ma petite amie et surtout, tu ne poses pas de questions ». Jessie, elle y va et commence ici une longue nuit de confession entre une mère et son fils. Jessie, elle a toujours voulu confier à son fils son histoire, mais elle n'a jamais su comment le faire. Et quand Marco lui révèle quelque chose qui va bouleverser sa vie et la vie aussi de Jessie, elle décide de tout lui raconter. Elle emprunte l'autoroute A4 dans son vieux 4x4 Nissan et on sent qu'elle a le pied au plancher. Elle roule à fond, elle roule avec fureur et elle force Marco à l'écouter. Elle le coince dans la voiture et elle le force à écouter toutes les violences insoupçonnables que certains hommes ont envers les femmes, et donc Jessie, elle a aussi elle-même vécu. Ça contraste encore plus avec le fait que dans les premières pages du roman, Jessie, c'est une prof de maths en collège. On a tout de suite l'image de la prof lisse, sage, un peu sans vie privée, et surtout dont les enfants ont une brillante scolarité. En fait, Jessie, elle est vraiment désemparée et fracassée par la vie. C'est une lecture qui est absolument frénétique. C'est une nuit noire dont on espère voir un peu de lumière pour Marco et pour Jessie. D'ailleurs, on en oublierait presque Marco quand Jessie, elle se raconte dans ce livre. Et j'ai trouvé que c'était une belle réponse de Mathieu Palin à son précédent essai qui était Nos frères, nos pères et nos amis, où il avait suivi des hommes qui avaient été condamnés pour violence envers des femmes. Et c'est comme si Jessie, elle disait à son fils en fait, en face, il y a vos mères, vos filles, vos sœurs et vos amis. C'est ça la réalité. Donc, je vous recommande ce roman pour son prisme avec l'actualité. Vous l'aurez compris dans les grandes lignes, pour ne pas trop vous en dire. La justesse de l'auteur et la façon dont il arrive à se mettre en retrait pour laisser pleinement place à l'histoire. Et j'en profite aussi pour, du coup, vous recommander plutôt. Aussi, l'ensemble des romans de Mathieu Palin qui écrit juste avec une forme de roman de vérité puisqu'il s'appuie sur des entretiens suivis avec les protagonistes principaux et on arrive à ressentir les vies tristes qu'il partage qui sont malheureusement assez banales mais aussi extraordinaires. Donc je vous recommande Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin aux éditions de l'Iconoclaste.
Merci beaucoup Carla Fernandez. C'est déjà la fin du 10e épisode. Eh, hey, quand même, 10, on est content. De votre podcast des livres RMC. Merci Francis Grimbert. On rappelle le titre de votre roman Les deux tilleuls paru chez Arléa. Merci Léa Chauvel-Lévy. Votre roman s'intitule Une demande folle. Il est publié chez Jean-Claude Lattès. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires, de bonnes notes quand même. Et surtout, abonnez-vous. Allez, on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla et allez, quelques vers de Philippe Fabre d'Églantine. Eh bien, voici ta couche, d'ors-y jusqu'au jour, laisse-moi sur ta bouche prendre un baiser d'amour. Ne rougis pas, bergère, ma mère et moi, demain, nous irons chez ton père lui demander ta main. Des livres RMC.